y a le précédent récent d'ailleurs de Joseph Estrada qui avait amené la vice-présidente d'alors, Madame Arroyo, à la présidence. Cet événement qui s'était passé au début des années 2000 montre que la situation politique aux Philippines reste instable et que effectivement un président peut être destitué si le Parlement pousse dans ce sens.
Est-ce qu'on ne peut pas le lire non plus comme une forme de vitalité démocratique ?
Écoutez, malheureusement, je ne crois pas. C'est assez superficiel. Effectivement, la population peut descendre dans la rue et manifester. Néanmoins, son pouvoir s'arrête là. Il y a, si vous voulez, trop d'intérêts partisans que les uns et les autres jouent et qui divisent la population pour pouvoir former un front uni.
Comment expliquer ces crises à répétition ? Il y a des raisons structurelles au niveau de la Constitution ?
Écoutez, non, c'est pas vraiment au niveau de la Constitution. Je dirais, c'est plus au niveau de la formation sociologique de la classe politique. Vous avez schématiquement une classe politique qui est divisée en deux parties. Une partie majoritaire qui est un vieil establishment qui contrôle véritablement le Parlement. Ça représente environ 3000 personnes qui constituent le corps et le cœur de la vie politique philippine. Et puis, vous avez quelques opportunistes qui essaient de temps en temps d'attraper un morceau. Ça a été le cas du président Ramos, ça a été le cas également d'Estrada. Dans le cas de Madame Arroyo, les choses sont un peu différentes puisque Madame Arroyo est elle-même fille de président, elle fait donc partie de cet establishment et je crois que le Parlement n'ira pas au-delà de certaines limites. Il n'y a malheureusement pas de véritable opposition, qu'elle n'est pas vraiment structurée d'une part, et que d'autre part, il n'y a pas de leader capable aujourd'hui de prendre la place de Madame Arroyo.
Alors on dit que si la présidente Arroyo obtient le soutien de l'armée et de l'Église, elle pourra rester finalement à son poste. Est-ce que ces deux institutions ont une force et un poids aussi grands dans le pays ?
Écoutez, beaucoup moins grand que ce qu'ils ont eu. Hein. Au moment de la présidence Marcos, par exemple, l'armée était évidemment un acteur politique à part entière qui a soutenu très longtemps les pratiques abusives du président Marcos. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Depuis que le président Ramos est venu au pouvoir, donc à la suite de la révolution populaire de 1986, il a dépolitisé l'armée et il a essayé de lui rendre une certaine professionnalisation. La même chose pour l'Église. L'Église a été très impliquée. Le cardinal Sin, on se souvient, était descendu dans la rue pour soutenir la présidente Aquino. Et donc, à ce moment-là, l'Église avait un vrai poids. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai. Je vous rappellerai que Madame Arroyo est arrivée au pouvoir avec le soutien de la secte Ecclesia in Christo et non pas avec le soutien de l'Église catholique.
Alors, vous êtes spécialiste de l'Asie. On a l'impression que les Philippines, c'est un cas particulier.
Oui. Alors, c'est un pays qui est un peu particulier, surtout à cause de sa relation très privilégiée, pour le meilleur et pour le pire, avec les États-Unis. Les États-Unis soutiennent Madame Arroyo. Donc, je crois que là aussi, si vous voulez, ils auront beaucoup de mal à la faire démissionner. La Maison-Blanche a cautionné les pratiques abusives dont je vous parlais du président Marcos. Il a cautionné aussi la révolution populaire de Madame Aquino. Il reste très proche et les intérêts américains très présents dans les équilibres internes. Les Américains cherchent actuellement à se réimplanter aux Philippines sur le plan stratégique du fait de cette menace terroriste. Et donc c'est dans cette relation très particulière que l'establishment entretient avec les États-Unis, où ses enfants sont évidemment éduqués, où chaque bonne famille philippine a un appartement, une maison ou autre chose, que cette structuration politique philippine peut s'expliquer.